Chapitre 14. Ce fut le samedi seulement que cette visite eut lieu. Il était temps, Turlure commençait à désespérer. D'un côté, il éprouvait une réelle satisfaction à se dire que sa commune ne serait pas le théâtre d'un nouveau crime. Mais d'un autre, il éprouvait une déception troublante à penser que ce nouveau crime aurait singulièrement aidé à la découverte du premier. Et dans cette affaire, c'était là ce qui le touchait le plus vivement. Par lui, un assassinat inconnu était mis en lumière. Les coupables étaient livrés à la justice, la vindicte publique, dont il se considérait comme le plus haut défenseur dans sa commune, recevait satisfaction. Ne viendrait-elle pas ? Il y avait des moments où l'impatience de l'attente était si tourmentante qu'il quittait son comptoir pour aller se mettre sur le pas de sa porte, et ses lunettes relevées, afin de mieux voir au loin, il inspectait la rue du côté du notariat. Quand un clerc passait, il lui fallait un véritable effort pour ne pas l'interroger d'une façon serrée et se contenter de quelques questions de simple politesse qui ne pouvaient pas lui apprendre grand-chose. Il eût voulu aussi questionner Médéric, mais il n'osait le faire par peur d'éveiller les soupçons de Madame la Vaupalière et de la mettre sur ses gardes. Enfin, le samedi matin, il vit entrer Divine portant quelque chose sous son tablier blanc. Ce quelque chose, quand elle l'eut débarrassé du morceau de journal qui l'enveloppait, était un de ces flacons de verre dans lesquels on enferme des conserves de fruits. Vivement, il lui prit le flacon des mains, presque brutalement. « Quand avez-vous vomi ? » demanda-t-il après avoir envoyé son élève. « Ce matin. »« Vous avez été malade cette nuit ?»«
À partir de minuit. » »«
Qu'éprouviez-vous ? »
Toujours la même chose, mal au cœur, mal à la tête, des coliques.
Avez-vous vomi plusieurs fois ?
Trois.
Et vos maîtres ont-ils eu aussi des vomissements ?
Je ne crois pas, mais madame n'a pas voulu prendre son chocolat ce matin.
Qu'avez-vous mangé hier à votre dîner ?
De la soupe grasse, du bouilli, du pigeon.
Le dîner de vos maîtres ?
Bien sûr.
La cuisinière a-t-elle mangé le même dîner que vous ?
Oui, mais elle n'a pas été malade.
Avez-vous mangé des bonbons ?
Non.
Qu'est-ce que vous avez bu ?
Du cidre.
Et vos maîtres ?
Du cidre et du vin.
Bon, maintenant laissez-moi travailler et revenez demain.
Vous me donnerez quelque chose qui me guérira ?
Je l'espère.
Il n'est pas trop tôt.
Quand elle fut partie, il courut s'enfermer dans son laboratoire. Le diagnostic d'une intoxication arsénicale, au moins pour la forme chronique, est quelquefois difficile à établir, mais par contre, la recherche de l'arsenic n'offre pas aux chimistes les mêmes difficultés que celles qui se rencontrent avec beaucoup d'autres poisons, comme ceux d'origine végétale par exemple, et pour Turlure qui, depuis 8 jours, piochait ses livres de toxicologie renforcés par les journaux de chimie et de pharmacie contenant des études sur l'arsenic qu'il avait collectionnées, cette recherche n'avait rien d'embarrassant. Si, tout d'abord, il avait voulu avoir un appareil de marche, c'était pour être prêt à toutes les éventualités. Mais, avant d'employer cet appareil, il y avait d'autres opérations préparatoires par lesquelles il pouvait commencer ses investigations. Oui ou non, le liquide que Divine lui avait apporté contenait-il de l'arsenic, comme tout semblait l'indiquer ? C'était la question qui devait être examinée et résolue. Quand il le saurait, il extrairait cet arsenic et l'isolerait. Comme Madame Turlure avait appris la visite de la femme de chambre de Madame la Vaupalière, elle vint frapper à la porte du laboratoire. Mais il ne lui ouvrit point.
« C'est toi, tête bonne ?»«
Oui. »
« Je travaille. Quand je serai plus avancée, je t'ouvrirai. »
Elle revint une seconde fois, puis une troisième, et il lui fit toujours la même réponse. Enfin, il alla lui-même la chercher.
« Tu as quelque chose ? » demanda-t-elle anxieusement.
« Tu vas voir. » Lorsqu'ils furent entrés l'un et l'autre dans le laboratoire, il en ferma la porte soigneusement. Elle voulut encore l'interroger, mais, au lieu de lui répondre, il prit dans une pince un charbon allumé sur lequel il jeta une substance en poudre qui, en brûlant, dégagea une légère fumée blanche.
« Qu'est-ce que ça sent ? » demanda-t-il.
« Oh, mais... »« Je t'en prie, donne ton impression, tout simplement, franchement.
Je ne veux pas m'en rapporter à la mienne, qui peut se laisser influencer par mon anxiété et manquer, je le reconnais, de l'impartialité que doit posséder un expert. Il me semble que ça sent quelque chose comme l'ail, mais très faiblement. » Il frappa des mains. « Parfaitement, s'écria-t-il, ça sent l'ail. C'est toi qui l'as trouvé, sans suggestion, sans qu'on te le souffle. Tu le dis parce que tu le crois. Et alors, est-ce que cette odeur prouve l'empoisonnement ? Non, mais elle prouve qu'il y a de l'arsenic dans les vomissements que cette fille a recueillis. Les tiens ? Oui, ceux qui m'ont servi pour préparer cette poudre. Et ceux de M. Lavaupalière, ceux de Madame ? Ils n'ont pas vomi. Ils ne sont donc pas empoisonnés ? N'allons pas si vite, il s'agit de la femme de chambre. Ne la quittons pas. Les symptômes des malaises qu'elle éprouve étaient ceux de l'intoxication arsenicale à forme lente. Maintenant, ces vomissements contiennent de l'arsenic, voilà ce qu'il faut retenir, et la conclusion à en tirer est qu'elle est empoisonnée. Comment, par qui, c'est une autre affaire que nous éclaircirons plus tard. Finissons celle-là. Je t'ai fait sentir l'arsenic dont tu as reconnu l'odeur. Il me reste à te le montrer. Tout en parlant, il allait et venait fiévreusement par le laboratoire. Il prit un petit tube étroit en verre, fermé par un bout, dans lequel il introduisit la même poudre avec un peu de charbon. Puis, le tube ayant été nettoyé à l'intérieur, au moyen d'un papier buvard roulé, il porta son extrémité fermée dans la flamme d'une lampe à alcool et commença à le chauffer progressivement. « Si la matière introduite dans ce tube contient de l'arsenic, dit-il, tu verras se former à une petite distance de la partie chauffée au rouge un anneau miroitant qui sera de l'arsenic revivifié. Fais attention !» Elle n'avait pas besoin de cet appel. C'était avec une émotion qui faisait trembler ses mains qu'elle suivait ses manipulations. « Si tout le monde savait la chimie, dit-elle, il n'y aurait pas d'empoisonneur. Regarde, c'est le moment !» L'anneau qu'il avait annoncé parut bientôt brillant, miroitant, en montant dans le tube à mesure que la chaleur devenait plus forte. « Eh bien, dit-il d'un ton de triomphe, crois-tu en l'empoisonnement maintenant ?»« C'est effrayant !»« Dis que c'est merveilleux et adore la science qui fait de pareils miracles. Mais ce n'est pas fini, nous savons que c'est de l'arsenic. Nous essaierons maintenant de découvrir si l'empoisonnement est dû à l'acide arsénieux, à l'acide arsénique, au sulfure d'arsenic, etc., ce qui peut avoir une importance capitale. Madame Turlure vivait dans le respect de son mari, mais en ce moment, elle l'écoutait et le regardait avec admiration. Tout en parlant, il avait repris une pincée de sa poudre. « Maintenant, je marche dans l'inconnu, dit-il. Et c'est le résultat de nos expériences qui parlera pour moi comme pour toi. Je soupçonnais l'arsenic et tu vois que je n'avais pas tort. Mais auquel décomposé de ce corps simple avons-nous affaire ? Je l'ignore comme toi, essayons donc de l'apprendre. » Et successivement, il essaya plusieurs des réactions dont il avait parlé en expliquant chaque fois le procédé qu'il employait. S'il s'agit d'acide arsénieux, qui est le composé d'arsenic qu'on se procure le plus facilement, nous allons voir notre matière, à laquelle je mélange de l'eau et de l'acide chlorhydrique précipité en jaune par l'hydrogène sulfuré. L'expérience faite ne donna pas le résultat annoncé. « Il n'y a qu'à continuer, dit Turlure. Nous cherchons au hasard, mais à la fin nous devons trouver. Ce que nous faisons n'est rien autre chose qu'un interrogatoire chimique. Les questions que nous posons ne peuvent pas du premier coup donner la réponse attendue. » Plusieurs réactions successivement essayées manquèrent encore et Turlure cessa d'annoncer à l'avance les résultats qu'il cherchait. « Je ne suis pas un escamoteur, dit-il. » Mais après un certain temps, sa figure, qui s'était rembrunie, s'éclaira. « Regarde, tête bonne, dit-il, quelle couleur vois-tu ? » « Du bleu verdâtre. » « Et c'est bien du bleu verdâtre, en effet, c'est-à-dire que nous avons affaire à l'arsenite de cuivre, autrement dit, à ce qu'on appelle dans l'industrie le ver de Schiele. Ce qui est bien extraordinaire et tout à fait renversant. Pourquoi est-ce extraordinaire ? Parce que l'arsenite de cuivre est un produit industriel et qu'alors il se pourrait que ces empoisonnements fussent le résultat d'un accident. Quel bonheur ! Ne va pas trop vite, car il se pourrait aussi que l'emploi de l'arsenite de cuivre fût dû au calcul d'un empoisonneur habile qui aurait voulu ainsi égarer les recherches de la justice si elle se produisait et s'armer pour la défense. Cela est-il? Au contraire, y a-t-il autre chose? Je n'en sais rien. Je suis sur un terrain neuf où m'a conduit mon expérience loyalement pratiquée. Alors, il n'y aurait pas de crime? Il est possible qu'il n'y en ait pas présentement. Mais le présent n'innocente pas le passé et nous restons toujours en présence de la mort de Courteheuse. Ne peut-elle pas avoir eu la même cause? Alors que signifierait et l'achat du comte Goutte et la substitution des cheveux? Ce serait la cause de cette mort que tu voudrais rechercher? Je te crois que je le veux et faire guillotiner les coupables. Crois-tu qu'ils ne sont pas plus punis, plus misérables, plus malheureux de vivre ensemble que d'être guillotinés? Et la vindicte publique? Enfin, que vas-tu faire? Me recueillir pour commencer. Ensuite, nous verrons. Pourquoi n'irais-tu pas à Rouen consulter ces messieurs du parquet? Pour qu'ils me chient pour mon affaire? L'expérience au serait paquet suffit. Celle-là sera mienne. Mais le recueillement de la nuit ne lui donna pas les lumières qu'il en attendait, et le lendemain matin, il se trouva aussi agité, aussi tourmenté, car de tous les plans qu'il avait combinés, aucun n'était sans danger. Et cependant, il fallait qu'il se décidât avant l'arrivée de cette fille. Devait-il simplement la soigner en qualité de pharmacien, ou bien devait-il l'interroger en qualité de mère, agissant en vertu des articles 49 et 50 du Code d'instruction criminelle sur le flagrant délit? La question était capitale, puisque si cette fille bavardait, les coupables avertis pouvaient lui échapper, soit par le coup de la fuite, soit par celui du suicide. Comme il réfléchissait à cela sur le pas de sa porte, il vit venir de loin la Vaupalière en costume de voyage, suivie de sa cuisinière qui portait une valise. « J'aurais dû le prévoir, » se dit-il à mi-voix. « Il se sauve. Ce soir à Bruxelles, demain à Anvers, où le chercher ?»